Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, parmi les caractères de Dieu, celui qui frappe le plus les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins paraît être sa sainteté, comme plusieurs passages de l'Écriture sainte nous le montrent. Et bien évidemment, ceci doit nous pousser à rechercher la sainteté et à marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous dit l'Écriture. Mais ce qui, de toute évidence, devrait toucher notre cœur et nous attirer au Seigneur pour nous attacher à lui indéfectiblement, c'est la grandeur de son amour. Cet amour qu'il a fait nous aimer le premier, alors que nous étions à son égard indifférents, négligents, voire hostiles ou ennemis. Cet amour qui lui a fait donner Jésus son Fils, cet autre lui-même, en sacrifice pour nos péchés. Cet amour dont il nous donne toutes sortes de preuves et de démonstrations, chaque jour de notre vie, pour peu que nous veuillions y être attentifs et sensibles. Oui, c'est cet amour si grand et si excellent qui devrait nous toucher profondément et nous attirer à lui si ce n'est pas fait encore. Pardon. Voici un témoignage. Ceci s'est passé, il y a déjà plus de 100 ans, dans une ville du nord de l'Europe, dans un pays de glace et de neige, la Norvège. Là vivait une famille chrétienne dont les parents et le fils aîné suivaient avec fidélité les enseignements de l'Évangile. Mais le plus jeune fils se conduisait comme un voyou. Il fréquentait les cabarets, les lieux de débauche, buvait de l'alcool et se battait, commettait toutes sortes de mauvaises actions. Ses parents, navrés, lui disaient « Un jour, cela finira mal pour toi ». Mais il se moquait des avertissements de son père et de sa mère et recommençait de plus belle sa vie dépravée. Un soir, le frère aîné entendit dans la rue le bruit d'une cavalcade et des appels angoissés. La porte s'ouvrit violemment et le jeune frère s'engouffra dans la maison, les yeux hagards, les vêtements maculés de boue et de sang. « Cache-moi, cache-moi » criait-il. « Ils arrivent, les policiers, j'ai tué un homme !»« Te cacher, je ne le puis, » dit le frère aîné. « Les policiers te trouveraient certainement, mais viens !» Et il l'entraîna dans la pièce la plus reculée de la maison. « Prends mes habits, je vais mettre les tiens !» Ils se ressemblaient tous les deux tellement que lorsque le frère aîné s'approcha de la porte, avec les vêtements tachés de boue et de sang du jeune frère, il n'eut aucun doute pour les policiers. Il tenait le coupable. On le malmena, et bientôt, les mains serrées dans les menottes, il fut conduit en prison à la place du jeune frère. Les journaux, les gens, toute la ville, parlaient du meurtre commis sur la voie publique. La justice, sans mansuétude, allait punir. Chaque fois qu'il était interrogé, le frère aîné répondait « Pour ce meurtre, je dois mourir ». C'est tout ce qu'il disait. Il fut condamné à la peine de mort. Quand on lui demanda quelle était sa dernière volonté, ce qu'il désirait, il dit simplement qu'il voulait écrire à quelqu'un qui était dans la ville, mais soulignait qu'il ne fallait remettre cette lettre qu'après l'exécution. Ainsi que vous avez pu le penser, cette lettre s'adressait au jeune frère. On pouvait y lire ces mots « Je suis mort à ta place ». Bouleversé, repris jusqu'au tréfonds de lui-même, le jeune frère se mit à s'accuser et se précipita chez le juge, expliquant que c'était lui le vrai coupable. Le tribunal, perplexe, se réunit en hâte. Puis les juges, profondément émus, délibérèrent. « Nous avons pris une vie pour ce crime. Nous ne pouvons en prendre deux. Va, tu es libre, » dirent-ils au jeune frère. « Ton frère est mort par amour pour toi. » Mais dans la lettre du frère aîné, on pouvait encore lire ces quelques lignes. « Tu as mis mes habits. Vis maintenant la vie que j'aurais vécue. C'est ma prière pour toi. » Le jeune frère se tourna de tout son être vers Dieu dans la repentance, désireux de vivre de toutes ses forces les années de vie qui lui avaient été ajoutées au service de Jésus-Christ, comme son frère l'aurait fait. Cette histoire bouleversante nous rappelle ce que dit l'Évangile. Jésus-Christ juste est venu sur la terre des hommes, envoyé de Dieu, et il est mort pour nous les injustes. Il est mort par amour pour nous. Le jugement qui devait tomber sur nous, avec le châtiment qui en découlait, il l'a subi à notre place. C'est à cause de lui que Dieu nous pardonne. Nous croyons entendre le juge dire au jeune frère « Ton frère aîné est mort pour toi, tu es libre. » Si nous venons à Dieu, repentant, si, comme le jeune frère coupable, conscient de nos péchés, de nos fautes, nous crions à Dieu en reconnaissant « Oui, je suis coupable », alors Dieu nous pardonne à cause de Jésus-Christ. Ne veux-tu pas, toi aussi, maintenant, reconnaître que tu es coupable ? Dieu veut te pardonner, te faire grâce, car Jésus est mort pour toi aussi. » Eh bien, prions. Seigneur, en effet, nous te remercions pour ce grand sacrifice d'amour que tu as opéré pour nous. Te remercions, Seigneur, pour ce grand et merveilleux salut que tu nous as acquis ainsi. Nous qui étions coupables, nous qui étions dignes de la perdition, eh bien, tu as connu la perdition la plus terrible à notre place, pour que nous puissions être sauvés et délivrés. Et nous te rendons grâce pour cela. Nous te remercions encore, Seigneur, aussi pour ta parole maintenant, que tu vas encore bénir dans sa lecture, puis la prédication de l'Évangile qui s'y rapporte. Et nous te remercions là aussi pour tout ce que tu accomplis en bénédiction pour chacun. Amen. Voilà, chers amis, eh bien, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 1er. Nous lirons ce chapitre. C'est un petit peu long, mais c'est très passionnant. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les disciples dirent, « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Amen. Relisons le verset 35. Jésus pleura. Jésus pleura, deux mots, le verset le plus court de la Bible, mais pas le moins surprenant, ni le moins significatif. Il ne nous est jamais dit que Jésus a ri, ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais fait, et plusieurs passages de l'Écriture nous montrent qu'il n'était pas dénué d'humour. Mais une insistance particulière est mise sur le fait que Jésus pleura. Pourquoi le fit-il ? Quelles sont les raisons directes et indirectes pour lesquelles il pleura ? Nous pourrons en développer sept qui ressortent de notre texte ou de l'Évangile tout entier. En premier, Jésus pleura parce qu'il a été un homme de la même nature que nous. On enseigne aux garçons qu'ils ne doivent pas pleurer. C'est, paraît-il, honte pour un homme de pleurer. On disait que c'était réservé aux femmes lettres. Et quand vous poursuiviez cette fausse conception vers le haut, si on peut dire, on arrive à dire que la divinité doit être entièrement inaccessible à tout sentiment humain. Ainsi voit-on des statues de dieux aux masques impassibles, ou à la rigueur animées de sentiments forts, comme on dirait, c'est-à-dire colère, froncement de sourcils, attitude dominatrice, etc. Mais il n'est pas question de compassion ou de sensibilité, ou de sentiments doux et compatissants. Jésus est Dieu. Il est le roi de gloire au-dessus de tous. Mais en même temps, il est homme, il est pleinement humain. Il a connu la tentation, comme nous, en toutes choses, et sans succomber au péché. Il peut donc secourir ceux qui sont tentés. Il a connu les fatigues et les lassitudes des gens du petit peuple du temps où il vivait ici-bas. Il peut donc renouveler les forces de ceux qui se confient en lui. Il a vu les ravages de la maladie et les infirmités dans une société sans défense médicale ni soins de santé. Il peut donc agir au mieux pour accorder la guérison et le soulagement adapté à chacun. Il a connu les peines, les tristesses, les deuils, les chagrins, comme nous en avons un exemple dans notre texte. Il peut donc envoyer à bon escient le Consolateur, le Saint-Esprit, pour qu'il soit en nous et avec nous, toujours exactement de la meilleure façon. C'est ainsi que nous le voyons accomplir sa propre parole. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Il se montre comme étant rempli de compassion, de sensibilité, et en démontrant l'excellence de ses sentiments, il donne ici une preuve parmi les plus évidentes de son humanité. Et c'est pour cela que nous pouvons venir à lui avec une pleine confiance, car il ne rejettera aucun de ceux qui viennent à lui. Une deuxième grande raison pour laquelle Jésus pleura, c'est à cause du chagrin de Marthe et de Marie, dont il est question, nous l'avons lu, du verset 21 à 27, puis au verset 32 et 33. Nous voyons que ces deux sœurs viennent manifester ce chagrin, chacune à sa manière. Ce sont des caractères différents. Marthe parle, elle exprime son déchirement, sa souffrance. Marie ne dit rien, ne discute pas, n'argumente pas, mais elle pleure sans retenue aux pieds de Jésus. Elles lui partagent leurs questions, leurs incompréhensions. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu plus tôt ? Elles avaient pourtant envoyé un message pressant, comme on le voit au verset 3. Et Jésus avait tardé deux jours encore, verset 6. Ne les avait-il pas prises au sérieux ? Avait-il traité leur cas à la légère ? Son amour pour eux était-il superficiel ? Mais non. En même temps, elle refuse de laisser place à des doutes, de trouver de mauvaises réponses à ces questions qui restent ouvertes. Résolument, elles renouvellent à Jésus l'expression de leur confiance en lui et leur plein attachement à sa personne sans qu'il ait besoin de se justifier le moins du monde, comme on le voit là encore au verset 22 et au verset 27. Et nous voyons ainsi qu'elles prouvent à Jésus la réalité et la profondeur de leur amour au travers même de cette terrible épreuve. Ah, il faut aussi l'épreuve pour nous éprouver et savoir si nous aimons vraiment. en particulier le Seigneur. Et c'est tout cet ensemble qui amènera Jésus à être bouleversé jusqu'aux larmes. Car comment ne serait-il pas touché par la réalité d'un tel amour ? N'est-ce pas là la mise en œuvre du premier commandement qu'il a lui-même rappelé avec une si grande emphase ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ah, Marthe et Marie aimaient vraiment Jésus. Elles l'ont encore admirablement prouvé là, et c'est aussi ce qui a touché le cœur de Christ. Et puis en troisième, Jésus pleura aussi à cause de son amour pour Lazare. Les Juifs le discernent bien au verset 36, sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Comment ne pas pleurer quand un ami très cher nous quitte ? Jésus se souvient de la première rencontre avec Lazare et ses deux sœurs, suivie de tant de moments précieux vécus ensemble. Il se rappelle la manière pleine d'affection dont il a été accueilli avec ses disciples dans leur maison, tant de fois sans prévenir, trouvant toujours le gîte et le couvert. Il se souvient comment Lazare n'a jamais failli, même quand les adversaires de Jésus se faisaient pressants et menaçants. Il se rappelle comment Lazare et les siens recevaient sa parole et l'œuvre de foi merveilleuse qui s'était accomplie dans cette maison. Un véritable disciple, un véritable compagnon d'œuvre et de combat, un véritable pilier dans l'œuvre de Dieu. Et les images de défilé, Lazare souriant, la joie de Lazare quand venait Jésus, Lazare assis avec lui, Lazare lui parlant, lui confiant toutes choses comme un homme parle à son ami. Lazare l'accompagnant ici ou là, la fidélité de Lazare, le consolant de l'ingratitude de tant d'autres. Lazare avec ses deux sœurs sur le pas de la porte, faisant des signes d'adieu à Jésus et aux siens, repartant pour une nouvelle mission. Et voilà que Lazare est parti. Humainement, il n'y a plus d'espoir. Et même si Jésus sait qu'il va faire le miracle, quelle chose terrible que de le savoir immobile, rigide et froid, de la noirceur et le silence du tombeau, et que la corruption a commencé son œuvre. Jésus pleura parce qu'il aimait Marthe et Marie et Lazare. Et puis, Jésus pleura aussi à cause de cette chose terrible qu'est la mort. La mort, le roi des épouvantements. La cause de tant de chagrins, de craintes, d'angoisses et de douleurs. La preuve de la malédiction universelle qui atteint l'humanité à cause du péché. La preuve qu'il y a un jugement qui vient. Car s'il n'y a pas d'au-delà, et pas de Dieu dans l'au-delà, la mort n'est qu'une conclusion absurde et horrible à l'existence. Quel terrible dépouillement de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a mis tant de mal à amasser. Quel déchirement de ce qu'on possède parce qu'on l'a construit et qu'on y a travaillé. On a acquis de la sagesse dans la vie, normalement. De l'expérience, des connaissances, de la maturité, du savoir-faire, de l'équilibre de conduite, et on perdrait tout d'un coup. Le génie des artistes, celui des penseurs, celui des grands poètes et écrivains, celui des artisans, tous parvenus au fait de leur art, si admirablement complexes et équilibrés. Et la mort vient, brutalement, elle détruit et saccage tout. Je te loue, ô Père, de ce que je suis une créature d'une complexité si merveilleuse. Oui, en effet, le corps humain est si admirablement ciselé, jusque dans les détails les plus infimes, les plus insaisissables, dont les scientifiques nous font toujours encore découvrir l'admirable complexité. Mais la mort vient, et par la corruption, toute cette harmonie de matière est détruite et réduite en une bouillie infecte et puante. S'il n'y avait pas d'espérance en Dieu, la mort est effectivement la chose la plus inacceptable, la plus absurde, la plus révoltante, la plus angoissante et la plus horrible qui soit. Combien elle frappe indistinctement, terriblement et apparemment aveuglément. Le mystère à ce sujet est grand aussi. Dans Le Seigneur des Anneaux de John Roel Tolkien, Gandalf a cet entretien avec Frodon qui dit « Je n'éprouve aucune pitié pour Gollum, il mérite la mort ». Réponse de Gandalf. Mérite la mort, je le crois bien. Nombreux sont ceux qui vivent et qui méritent la mort. Et d'aucuns meurent qui méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner ? Alors ne soyez pas trop ardent à donner la mort au nom de la justice, craignant pour votre propre sécurité. Même les sages ne peuvent voir toutes les fins. Vous n'avez peut-être jamais entendu le nom de Sir Isaiah Berlin. Lorsqu'il est mort en 1997, Arthur Schlesinger a fait son éloge dans un journal en disant qu'il était vraisemblablement l'homme le plus brillant du XXe siècle. Né en Lettonie, Berlin finit par être professeur à Oxford et connu pour ses extraordinaires réalisations académiques. Il était admiré par des gens de toutes les couches de la société. Ironiquement, dans ce même journal, on rapporte que Sir Isaiah avait déjà dit « J'ai peur de mourir, car cela pourrait être douloureux, mais je trouve que la mort est embêtante, je m'y oppose, je suis terriblement curieux, j'aimerais vivre pour toujours. » En exprimant candidement ses sentiments devant la mort, ce célèbre penseur reconnaissait qu'il n'était pas différent des gens ordinaires. Toutes ses connaissances ne pouvaient le libérer de notre aversion commune. Comme nous tous, il était esclave de la crainte de la mort. La simple foi en Jésus-Christ peut faire pour nous tout ce que beaucoup de connaissances n'arrivent pas à faire. Lorsque nous croyons en Jésus qui a vaincu la mort et en sa résurrection, la peur de la mort disparaît. Nous pouvons être certains d'aller au ciel, parce que notre Sauveur nous garantit la vie éternelle, comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, au verset 25 et 26 que nous avons lu. C'est parce que Jésus vit, que celui qui croit en lui vivra éternellement, dans la joie et la gloire de sa communion. Seule la crainte de Dieu peut ôter la crainte de la mort. Seule la crainte de Dieu peut ôter la crainte de la mort. Et puis en cinquième, Jésus pleura aussi parce que cette mort est l'annonce et le précurseur d'une autre mort, bien plus terrible. Celle qui est la perdition éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu, la souffrance pour l'éternité. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle est la perte de toute espérance. Parce qu'elle est aussi la perte de toute joie. Car toute joie vient de Dieu, que ce soit directement ou indirectement, qu'on s'en rende compte ou pas. Et la séparation d'avec Dieu implique la perte de toute joie. Et ensuite, aussi, parce qu'elle est la perte de tout bénéfice injuste qu'on peut avoir ici-bas. Car, par exemple, quand il est écrit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, cela veut dire que les méchants et les injustes bénéficient de quantités de soins de Dieu dont ils ne se rendent même pas compte. Mais ils s'en rendront compte. Ce sera parce qu'ils n'en auront plus l'avantage et qu'ils seront séparés du donateur. Et c'est aussi la perte de toute compréhension, de la part de qui que ce soit, la perte de toute bonté et de toute miséricorde. C'est la disparition totale de l'amour, de la bonté, de la patience, de la douceur, de toute forme de compassion. Pardon. Mais en même temps, ce sera aussi le moment de la terrible récolte. Car celui qui sème le vent récolte la tempête. Car avec celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversité. L'incrédulité et l'endurcissement de cœur produiront un traitement d'une dureté terrifiante et inhumaine. L'amour du mensonge et de la dissimulation amèneront alors à des rapports faussés de méfiance totale. L'indifférence aux choses de Dieu et aux besoins de notre prochain amènera un traitement de la plus grande cruauté dans le ricanement général de tous ceux qui seront là. Le refus de la lumière de Dieu aura pour conséquence d'être plongé dans l'obscurité des ténèbres pour toujours. Le manque d'amour et de compassion aura pour fruit le désespoir total dans un environnement sans une ombre de pitié. Le refus du message de la vérité qui mène à la vie et au salut conduira à d'affreuses pensées, plus terrifiantes les unes que les autres, insensées et destructrices continuellement. Le refus de la conversion, de l'engagement et de la pratique des œuvres de la foi mènera à l'impossibilité absolue de se dégager de ce tourbillon d'horreur. Jésus pleura à cause de ces Juifs qui sont là, car il sait que beaucoup d'entre eux seront perdus, même après que Jésus ait opéré ce miracle, parce que leur cœur est mal disposé. Ah, ils se justifiaient en disant qu'il y avait de bonnes choses en eux, et c'est vrai que tout n'était pas mauvais en eux. Ils étaient venus dans de bonnes intentions, on le voit, pour consoler Marthe et Marie. Ils avaient fait des efforts, ils avaient une sensibilité, ils étaient humains. Mais Jésus sait que s'ils ne se convertissent pas, ils sont perdus. Et c'est pour cela qu'ils pleurent également à ce moment-là et dans cette occasion. On raconte que Marie Stuart, reine d'Écosse, de 1542 à 1587, voulut s'entretenir avec le réformateur John Knox. Elle le reçut en audience privée et lui reprocha la hardiesse de sa prédication. « Je vois, monsieur, que c'est à vous et non à moi que mes sujets doivent obéir. »« Que le Seigneur me garde, » répondit Knox, « d'enjoindre aux Écossais de s'affranchir de leurs devoirs envers leur souveraine. Je ne suis pas un traître, Majesté, mais voyez-vous, mon premier devoir est de prêcher Christ crucifié et ressuscité. Ah, noble reine, si seulement vous connaissiez Jésus. Réponse : j'aime ma religion et elle me suffit. Donc Knox qui dit : un jour, nous comparaîtrons tous devant un tribunal. Où nul prince ne trouvera grâce à cause de sa position terrestre. Le juge n'aura égard ni au rang ni à la richesse. Notre seule sauvegarde lorsque nous nous présenterons devant Dieu, ce sera la confiance que nous aurons mise en Jésus, le Fils de Dieu mort sur la croix. « Ma conscience ne me reproche rien, » dit la reine. La conscience, illustre dame, a besoin d'être éclairée de la lumière d'en haut. Cette lumière, c'est la Bible, parole de Dieu. C'est elle qui nous instruit. Croyez la Bible. Qui êtes-vous pour oser me contredire ? Je suis un homme qui devra rendre compte à Dieu de chaque occasion fournie pour proclamer la vérité. « Retirez-vous, vous êtes un insolent !» dit la reine en colère. Nous ne savons pas si Marie Stuart eut un autre entretien avec le réformateur, mais nous savons que tous, du plus grand au plus humble, nous ne pouvons obtenir le pardon et la faveur de Dieu que par la foi en Jésus le Sauveur. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2, par exemple. Et puis une sixième raison pour laquelle Jésus pleura, c'est parce qu'il n'avait pas à faire comprendre aux siens eux-mêmes la réalité profonde de sa puissance de résurrection. Voyez comme il essaye de le faire avec la meilleure à ce moment-là, qui est Marthe, verset 21-27, et on voit bien au verset 40 qu'elle n'a pas encore vraiment saisi. Elle ne saisira pleinement que quand son frère sortira de la tombe, et plus encore quand Jésus à son tour en sortira. C'est le même problème que Jésus rencontrera bien des fois avec ses disciples, quand il leur parlera de sa mort, de sa résurrection et de ce qu'il attendait. Ils croient théoriquement, mais ils ne saisissent pas vraiment. Car quand les dramatiques événements menant à la croix et à la mort de Jésus se produisent, eh bien ils seront perdus, dispersés, dans le désarroi. Ils ne se souviendront plus de ce que Jésus leur avait pourtant annoncé d'avance. En fait, ils croyaient qu'ils croyaient, mais c'était léger, superficiel. Ils n'avaient pas de vraie foi. L'incrédulité jetait un voile sur leur esprit et leur compréhension. Quelle frustration pour Jésus de ne pas vraiment trouver de compréhension et donc de soutien dans une situation où il en aurait tellement eu besoin, à porter un fardeau de manière si solitaire et si pesante. Et même après la résurrection, quelle difficulté pour qu'il le comprenne, pour qu'il le réalise. Jésus pleura car il a un tel message, une telle bonne nouvelle, une telle puissance. Il ne peut vraiment arriver à le faire saisir ni réaliser. En fait, c'est quand l'Esprit de Dieu, agissant dans des circonstances favorables, aura fait son œuvre, que leurs cœurs se réchaufferont étrangement, que les yeux de leurs esprits s'ouvriront, que les écailles tomberont des yeux de leurs cœurs, que leur compréhension s'ouvrira à la vérité, et qu'ils saisiront la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, en parvenant à la vraie foi, qui est une pleine foi en la résurrection. Oh, comme il est nécessaire pour chacun de nous de passer d'une foi théorique à la vraie foi, d'une croyance apprise, enseignée, à la vérité qu'on saisit et qu'on voit se réaliser, de simples discours à la manifestation de la puissance de Dieu et du miracle de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur dit encore, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et enfin, une dernière raison, Jésus pleura à la pensée de la mort qu'il attend lui-même et dont il sait qu'elle est si proche, quoique bien plus terrible que celle de Lazare. Quels parallèles étranges entre la mort et la résurrection de Lazare et la mort et la résurrection de Christ. Des femmes pleurant au tombeau dans les deux cas, 3 jours dans le tombeau dans les deux cas, une grotte avec une pierre placée devant à chaque fois, un miracle extraordinaire, manifestation de la puissance de Christ sur la mort, la foi ainsi produite dans un certain nombre, qui les fait s'engager pour suivre Jésus, et l'opposition aussi que cela produit dans d'autres, et qui les amènera à prendre position contre Jésus. Ah, ce sera l'occasion qui révélera leur disposition de cœur. L'occasion du choix ultime et définitif, soit pour le salut d'un côté, soit pour la perdition de l'autre. Oui, quelle extraordinaire et frappante occasion. Ah, on peut comprendre que Jésus pleura. car il sait que la prochaine fois qu'il se trouvera en présence d'un tombeau, c'est pour y être lui-même. Mais en même temps, il sait que ce qui l'attend est bien plus terrible que ce qui est arrivé à Lazare. Et ceci pour vous, pour toi, pour moi. Il a connu les bas-fonds de la perdition. Il a souffert les souffrances les plus affreuses de l'enfer, pour que toi et moi n'ayons pas à les souffrir, si nous voulons venir à lui. Et c'est aussi pour cela qu'il est écrit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. » Comment l'auteur de l'Évangile aurait-il pu le savoir ? Puisque c'était en lui-même que Jésus a frémi. C'est parce que, par après, le Seigneur le lui a dit et expliqué. Il lui a tout expliqué, car il était important qu'il le comprenne, qu'il le retienne et qu'il l'écrive, pour que cela puisse aussi nous parvenir et que nous puissions en tirer instruction à salut. En conclusion donc, Jésus pleura. Ceci nous montre combien il est sensible et humain pour tous ceux qui se tournent vers lui. Ceci nous montre l'amour profond qu'il a pour ceux qui se confient en lui. Ceci nous montre combien la mort est une chose terrible, surtout pour ceux qui ne sont pas sauvés et ont à connaître la perdition éternelle. Ceci nous montre le puissant désir de Christ que nous puissions avoir la vraie foi qui sauve, qui voit la mise en œuvre de sa puissance dans notre vie pour qu'il puisse accomplir des prodiges et des miracles. Oh, venez à lui pour cela dès aujourd'hui. Amen. Te remercions, Seigneur, et te bénissons encore, parce que tu es toujours ce Seigneur vivant et agissant. Combien nous avons là une manifestation de ton grand amour, Seigneur, et combien nous croyons que tu vas encore le manifester en faveur de tous ceux qui se confient en toi, de ceux qui te confient leur vie aujourd'hui, ce soir même, Seigneur. Et merci pour ta grâce que tu veux manifester dans leur existence. Merci pour le pardon, merci pour la purification des anciens péchés, merci pour la vie nouvelle que tu mets en eux par ton esprit, merci pour ta bénédiction agissante. Béni sois-tu, notre Seigneur, nous te rendons grâce et gloire. Amen. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs, mes amis, nous avons encore simplement quelques annonces de conclusion. Donc, il n'y aura pas d'évangélisation dans les villages ce samedi, et les samedis suivants d'ailleurs pour la durée des vacances scolaires. Le culte se déroulera bien à 8h30 dimanche, puis à 10h45. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez y participer. La réunion de prière, donc, c'est le mercredi à 20h15, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et avant cela, donc à 19h15, le mercredi, nous avons une séance de questions bibliques, et questions et réponses bibliques. Voilà. La semaine qui vient, du mardi 13 au jeudi 15 juillet inclus, nous avons une mission ici à Chalon, en Champagne et dans la région. Vous pouvez vous inscrire sans tarder, par téléphone ou en ligne pour y participer. Alors le programme journalier sera de l'évangélisation le matin dans les villages ou à Chalon, en boîte aux lettres pour l'instant. Repas du midi tiré du sac, études bibliques sur place en début d'après-midi et activités de détente à la suite. Voilà. Et puis, je rappelle dès à présent qu'une autre mission est prévue à Besançon la semaine d'après, du lundi 19 au jeudi 22 juillet, et on prendra les inscriptions à partir de mercredi prochain. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, en particulier ceux qui se laissent toucher par l'amour du Seigneur pour venir à lui et lui confier toute leur vie aujourd'hui. Amen.